Le plus important pour moi, c'est de dire que la santé, c'est 11% du produit intérieur brut français, que c'est un bien commun et qu'on doit tous essayer de l'améliorer. Et donc, je recommande à tous les entrepreneurs de France d'aller essayer d'innover dans la santé. La France est le plus beau pays du monde pour créer sa boîte. Donc, soyons entrepreneurs et allons essayer de créer des entreprises.
La France est le plus beau pays du monde pour créer sa boîte. Elle est enthousiaste, hein, notre nouvelle licorne française, ou plutôt un de ses créateurs, Stanislas Nieuxchâteau, qui a lancé il y a 5 ans une plateforme de prise de rendez-vous médicaux. Doctolib, c'est de cette entreprise qu'il s'agit, une jeune entreprise qui n'est pas cotée en bourse et dont la valorisation dépasse quand même maintenant le milliard d'euros. Ça, c'est la définition de la licorne. Et en France, elle se compte sur les doigts d'une main, alors que le troupeau de licornes sur la planète, ça fait plus de 300 entreprises. Mais la licorne parle d'abord anglais, américain, et puis ensuite de plus en plus chinois. Alors que nous apprend notre licorne bleu-blanc-rouge ce matin? Eh bien qu'il y a encore des pâturages à investir, par exemple la e-santé. Elle nous dit aussi qu'en France, il y a de l'argent pour l'innovation. Regardez derrière Doctolib, la banque publique d'investissement. Et nous, à cette licorne, nous nous permettons de dire attention aux prédateurs. Par exemple, vous, auditeurs, si vous allez chercher un médecin sur Internet, sur quel moteur de recherche allez-vous? Il me semble que ça commence par un G. Donc, l'enjeu, maintenant, c'est de devenir vite une licorne encore plus grosse pour ne pas se faire avaler. Par exemple, plus de 10 milliards d'euros. Allez, au moins une décacorne.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le Magéco. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec le réalisateur Coy Nguyen. Valentin Pérez est avec nous ce matin à la technique. Fabrice Desmaz nous accompagne. L'actualité de la semaine, c'est l'âge minimum de départ à la retraite. Est-ce qu'il va rester fixé à 62 ans? Ce matin, c'est notre débat, l'âge de départ à la retraite. On croyait que c'était une promesse du gouvernement et puis tout à coup, ça a l'air moins simple, ça a l'air plus flou. Et quand c'est flou, il y a Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour.
Forcément,
Christian.
Un loup. C'est comme avec vos licornes. Vous savez, j'aime bien cette phrase, les GAFA aiment les licornes comme les lions aiment les gazelles.
Ben voilà,
attention.
Prédateur. Emmanuel, il y a aussi quand c'est flou, il y a aussi... un loup, Emmanuel Le Chypre de BFM Business. Bonjour Emmanuel.
Bonjour, je vais vous la faire plutôt renard aujourd'hui. Vous avez vu cette histoire incroyable, puisque vous étiez à la campagne, cette histoire incroyable du renard qui s'est fait dévorer par des poulettes, parce qu'elles étaient plus malines que lui. Hein? Et ben voilà, et ben là c'est exactement la même chose avec votre...
Malicorne.
Et regardez cette étude que moi j'ai trouvée incroyable sur justement la taxe GAFA cette semaine, où c'est le renard fiscal qui va se faire avoir par les poulettes GAFA. Étude du cabinet Tage,
ah oui,
qui montre
terrible.
À qui va profiter fondamentalement la taxe GAFA. Et le cabinet Tage nous dit qu'en fait, c'est à 57%, c'est les consommateurs qui vont payer au final cette taxe GAFA, que ce sont à 39% les clients entreprises de ces moteurs de recherche qui vont payer, et que 4% seulement de la taxe sera payée par les GAFA.
C'est triste,
grosse estimation,
Christian,
du cabinet Tage qui dit dans son étude qu'on n'en sait rien du tout, on a fait des gros calculs des estimations. Cabinet Tage qui travaille pour les entreprises pour leur éviter de payer les impôts.
Oui,
rappelons-le
sûr,
quand
bien
même.
Sûr, rappelons-le quand même.
Oh, là, vous mettez en doute leur probité, c'est dur. Quand même. Mais bon, c'est vrai.
Enfin, ils peuvent pas se permettre de raconter n'importe
non,
quoi.
Non, bien sûr.
Non.
Ce sont des clients.
Alors,
sérieux.
Ils sont très en forme. Le débat sur les retraites, c'est dans une minute. Au programme également ce matin, la tournée européenne du président chinois Xi Jinping. La Chine poursuit son chemin vers la superpuissance. En réalité, c'est un duel avec les États-Unis. Et au milieu se trouve l'Europe divisée sur la stratégie. Vous entendrez la correspondance d'Olivier Tosseri en Italie sur les nouvelles routes de la soie. Le dossier de Simon Leplâtre à Shanghai, puisque Pékin veut créer ses propres champions technologiques. Et puis notre invité, c'est la voix des entreprises, celle du comité France-Chine. Son coprésident Jean-Louis Chaussade sera avec nous vers 9h45. Il est aussi le patron de Suez. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Ce matin, ma vie au boulot.
Oui, je vais vous parler de la journée mondiale du rangement de bureau. Une chronique toute spéciale pour vous, Alexandra.
Ah, je vois. On se retrouve juste avant 10h. Tout de suite, confusion et non-dit autour de cet âge de départ à la retraite.
Mars 2019.
Je suis médecin.
Agnès Buzyn.
Je vois que la durée de vie augmente d'année en année.
Ministre de la Santé et des Solidarités.
Après, nous allons mener une réforme des retraites pour rendre les retraites plus universelles, plus compréhensibles pour les Français et avoir un système qui pérennise notre système par répartition.
Quelqu'un qui est en dehors des réalités.
Philippe Martinez.
J'invite Madame Buzyn à aller faire un stage d'un mois en EHPAD, à la place des personnels.
Secrétaire général de la CGT.
Et elle verra si on peut avoir des soignants aussi âgés que les résidents.
Moi, j'ai écouté Madame Buzyn.
Geoffroy Roux de Vézieux,
Et elle dit une chose toute simple, l'espérance de vie continue à progresser.
Président du MEDEF.
Donc on a le choix entre deux solutions. Soit on touche rien et on va être obligé de baisser les pensions, soit on se pose cette question.
Ça fait depuis 93...
Yves Verrier.
Les réformes des retraites se succèdent.
Secrétaire général de Force ouvrière.
Et systématiquement, elles conduisent à allonger la durée au travail. Donc nous, nous disons stop.
Moi, ce que je veux,
Bruno Retailleau,
c'est qu'on puisse suivre l'espérance vie.
Président du groupe LR au Sénat.
Et on fait un pari gagnant-gagnant avec les Français. On leur dit progressivement, pas en un an, on va porter l'âge de la retraite à 65 ans. Mais ça veut dire que ça va nous permettre d'économiser à terme 20 milliards d'euros d'économies par an. C'est-à-dire qu'on dégage de la ressource pour essayer d'aider les plus fragiles.
Maintenant, il y a une confusion autour de l'âge.
Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites.
Les gens de droite ont une lecture de caractère budgétaire qui fait qu'en repoussant l'âge à chaque fois, il y a 7, 8, 10 milliards. Les gens de gauche ont plutôt fait des réformes qui augmentaient la durée de cotisation. La liberté de partir restera 62 ans. Et ensuite, nous avons mis en place la liberté de choix à partir de 62 ans et en disant aux personnes, si vous souhaitez partir un peu plus tard, on va majorer vos points de pension.
Macron se fait élire
Christian Saint-Étienne
avec deux mesures annoncées, la suppression de la taxe d'habitation et le maintien de l'âge de départ à 62 ans.
Économiste.
Il va pédaler en permanence en disant, voilà, 62 ans, mais on va faire une réforme par points. Le problème, c'est que vous avez trois catégories de personnes en population active qui ont des comportements et des attentes différentes. Vous avez les salariés, vous avez les fonctionnaires et vous avez les indépendants. Vouloir mettre tout le monde dans le même régime, ça va créer un ensemble d'incompréhensions qu'on va payer pendant 30 ans.
Un ensemble d'incompréhensions, on peut dire que le dossier en est là, hein, un grand flou. Emmanuel Le Chypre, pourquoi est-ce que ce débat sur l'âge de départ à la retraite, il revient cette semaine ?
Bah, d'abord, ce qui choque, c'est que il faut rappeler que c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, hein, de dire on ne touchera pas à cet âge pivot de 62 ans. Et puis depuis le début de cette négociation avec une habileté de Sioux, Monsieur Delevoye disait bien qu'il y aurait rien. Et puis il y a quand même plusieurs choses. D'abord, pourquoi on a fait cette réforme structurelle des retraites ? Pourquoi on s'est engagé dedans ? C'est parce qu'on pensait que on était tranquille financièrement pendant quelques années. On avait fait des tas de réformes paramétriques, alors le montant des pensions, etc., cotisations, et on se disait, bon, l'équilibre du régime, il est pas trop menacé à long terme. Bon, or, il y a quand même des prévisions assez récentes qui vous disent que finalement, on va retomber assez rapidement dès 2022 à des déficits de 4 à 5 milliards d'euros. Donc, il faudra quand même trouver de l'argent. Et puis, au-delà du parce que notamment, les perspectives de croissance sont pas là, la productivité n'est pas au rendez-vous, etc., etc. C'est toujours comme d'habitude avec les rapports du Conseil d'orientation des retraites, c'est-à-dire que c'est basé sur des hypothèses très fragiles. Et d'ailleurs, une des fragilités de ce système de retraite actuel, c'est qu'il est quand même extrêmement dépendant des variables économiques. Et puis, il y a quand même, à plus court terme, des raisons politiques. C'est-à-dire que là, Emmanuel Macron, il sait bien qu'il va devoir faire des concessions, notamment aux retraités, par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'il va pas devoir revenir sur l'indexation, par exemple, enfin la sous-indexation des retraites pour une certaine partie de la population ? Il sait que tout ça va lui coûter de l'argent. Donc, il se dit, il faut quand même trouver de l'argent et reporter l'âge de la retraite de départ d'un an, bah c'est quand même 10 milliards d'euros. Et donc, le subterfuge qu'il a trouvé, c'est de dire, attendez, ça concerne pas la réforme des retraites. Par contre, pourquoi pas dans le cadre du financement de la dépendance ?
Ouais, ça a été la subtilité de la semaine.
Oui, c'est ça, qui est la réforme qui viendra plus tard. Et comme justification, ça a le mérite de se dire, ah, c'est une noble cause, la dépendance. Donc, il se dit peut-être que la pilule passera plus facilement si on fait passer ça sur la nécessité de financer la dépendance que simplement sur le système de retraite.
Christian Chavagneux.
La raison n'est pas liée au problème des retraites, à mon avis. La raison, elle est liée à un problème budgétaire général. Ce gouvernement est un paniqué du déficit et de la dette publique. Or, ce gouvernement paniqué de la dette publique, les Gilets jaunes l'ont obligé à cracher 10 milliards. Et donc, vous avez entendu cette petite musique depuis un mois, c'est comment je peux récupérer de la main droite ce que je t'ai donné de la main gauche. On a eu d'abord Gérald Darmanin qui s'est dit, les aides aux entreprises, c'est beaucoup. Puis le gouvernement a dit, non, attends, les entreprises, c'est les copines, on n'enlève pas les aides aux entreprises. Cette petite musique d'il y a 10 jours, là, comment est-ce qu'on fait pour remettre la taxe carbone ? Pas pour comment on fait pour faire la transition écologique, c'est la taxe, c'est un élément. Non, la taxe, comment faire rentrer des sous ? Proposition supplémentaire, si on touchait aux retraites, on reste dans la logique politique du début du quinquennat. Rappelez-vous, la hausse de la CSG sur les retraités, la sous-indexation des pensions, les retraités, c'est le punching ball du gouvernement. Donc on continue à taper.
Parce que c'est une masse.
Parce que c'est une masse énorme. Et là, on voit qu'il y a deux tendances au gouvernement. Là, ce que nous dit cette semaine, c'est qu'il y a deux politiques. Il y a un combat au sein du gouvernement. Vous avez la ligne Buzyn, Agnès Buzyn, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, qui dit faut de l'argent tout de suite. Et pour avoir de l'argent tout de suite, c'est ce qu'Emmanuel a appelé les réformes paramétriques. Soit on joue sur les taux de cotisation, soit sur l'âge de départ à la retraite. Ça rapporte de l'argent tout de suite. Il l'a dit, on peut avoir sur 10 ans, soit tout de suite, soit à 10 ans, entre 1 et 2 points de PIB. On fait baisser le poids des dépenses publiques dans le PIB tout de suite. Et puis vous avez Emmanuel Macron et Jean-Paul Delevoye qui disent non, il faut de la réforme structurelle, on maintient le poids des retraites, hein, les dépenses des retraites publiques dans le PIB.
Sauf 14% que, du PIB.
À peu près, 13-14%, oui. Mais comme il va y avoir plus de retraités, la seule chose qu'on peut faire, c'est accepter des pensions moins élevées ou travailler plus longtemps. Mais là, ce sera votre choix individuel, comme l'a dit Jean-Paul Delevoye. Donc vous voyez, on est sur deux logiques politiques qui s'affrontent au gouvernement, c'est pour ça qu'on a proposition contre proposition.
Alors, est-ce qu'on peut entrer dans le détail sur ces 62 ans et est-ce qu'on peut faire la photographie? C'est-à-dire que, en réalité, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, cette borne d'âge? Il me semble que les chiffres disent qu'on travaille déjà beaucoup plus longtemps, Emmanuel Le
Alors,
Chypre.
C'est vrai que la borne légale de 62 ans, c'est l'ouverture des droits à la retraite. Mais la réalité, c'est qu'en fait, les Français, ils partent déjà, finalement, quand ils décident de partir, et quand, dans la mesure du possible, parce qu'on verra que c'est pas le cas pour tout le monde, n'a pas forcément le choix, mais ils essayent déjà de partir en fonction d'un niveau de retraite qu'ils jugent satisfaisant, et ils partent ensuite après. C'est pour ça qu'on est, alors après, ça dépend, dans les régimes OCDE, où on n'a pas les mêmes statistiques, on est plutôt à 64 ans et quelques. En France, c'est plutôt, les statistiques françaises nous disent que c'est plutôt 62 ans et 8 mois. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aussi cette idée, si vous voulez, que vous allez bosser à temps plein la veille de votre départ à la retraite et que le lendemain de votre départ à la retraite, vous n'allez plus bosser, c'est plus la réalité pour énormément de gens. Songez par exemple que depuis 3 ans, vous avez un tiers des gens qui partent à la retraite qui choisissent le cumul emploi-retraite. Et ils le choisissent alors pour des raisons financières, c'est évident. Mais par exemple, quand vous gagnez 1000 en bossant 5 jours dans la semaine, vous partez à la retraite, vous avez 60 de retraite, vous bossez 2 jours et demi dans la semaine, vous avez 500. Mmh. Ça vous fait plus qu'avant. Donc voilà pourquoi les gens y veulent. Et ce qui est très important aussi, et c'est sociologique, c'est que il y a aussi des gens qui veulent travailler plus. Quand vous interrogez les gens qui prennent le cumul emploi-retraite, quand vous leur demandez pourquoi vous le faites, vous en avez une minorité qui vous dit que c'est uniquement pour des raisons financières. La réalité, c'est que vous avez plein de gens qui ont envie de continuer à travailler ensuite. Donc cette réalité, cette borne des 62 ans, c'est déjà plus la réalité
d'une
partie des Français qui partent en retraite.
Christian, le totem, il est déjà tombé. Il y a plein de Français qui voudraient travailler plus longtemps. Voilà ce que nous dit Emmanuel.
Oui, mais il le prend du bon côté. Moi, il le prend sur les gens qui sont à la retraite après. Moi, je vais prendre les gens qui sont avant et qui aimeraient bien travailler avant d'aller à la retraite. C'est l'économiste Michaël Zemmour qui a fait ce décryptage, je trouve, tout à fait essentiel. Il y a une confusion dans le débat entre l'âge où on part à la retraite et l'âge où on arrête de travailler. C'est pas du tout le même. Les Français partent en retraite vers 60 ans, puis 62 ans. Maintenant, on nous dit 62 ans et 8 mois, bientôt 63 ans. Mais ça, 63 ans à peu près, c'est l'âge de liquidation des droits à la retraite. Je prends ma retraite. Or, vous regardez les statistiques du ministère du Travail. Qu'est-ce qu'elles nous disent? En 2015, dernière stat, les gens qui ont entre 53 et 69 ans. Il y a près d'1,5 million qui sont sans emploi ni retraite. Vous en avez un quart au chômage, un quart d'inactifs qui vivent grâce aux revenus de leur conjoint, 15% d'invalides, 20% qui sont minima sociaux. Dans ce groupe-là, vous avez un tiers de gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 61 ans, vous avez à peu près 30% des gens qui sont sans emploi ni retraite. À 62 ans, au moment où ils pourraient liquider leur droit à la retraite, encore 10% des personnes qui sont sans emploi ni retraite. Ils n'ont pas le nombre de trimestres qu'il faut pour partir avec la retraite à taux plein. Si vous avez un pic, en fait, de gens qui partent à la retraite, à 65 ans, parce que l'âge du taux plein, c'était 65 ans. Maintenant, vous avez un pic à 67 ans, parce que l'âge du taux plein, c'est 67 ans. Conclusion. Quand vous augmentez l'âge du départ à la retraite, vous avez quoi? Vous avez ce qu'a dit Emmanuel. Plus de personnes qui travaillent après 60 ans, plus de personnes qui travaillent après 60 ans, si elles avaient un emploi à 62 ans. Si elles avaient un emploi. Et dans ce cas, que nous dit la Sécurité sociale, il y a un accroissement des accidents du travail et des maladies au travail. Donc ce que vous gagnez en retraite, vous le perdez en sécu. Sinon, si vous aviez
pas
de travail...
Et les autres, alors ceux qui n'avaient pas de travail, vous les maintenez dans quoi?
C'est que ceux qui n'avaient pas de travail, soit ils sont au chômage, soit dans l'invalidité, soit ils sont retirés du marché du travail parce qu'ils trouvent plus de boulot, soit ils vivent des minima sociaux. Il y a le calcul qui a été fait malheureusement pour le seul chômage. Si vous augmentez l'âge de la retraite, vous perdez 20% de ce que vous gagnez en augmentant l'âge de la retraite parce que vous payez les gens au chômage. 20%, c'est que le chômage. Faut compter la maladie, faut compter la validité, faut compter les minima sociaux. Vous perdez, en fait, budgétairement ce que vous voulez gagner du côté des retraites, mais vous accroissez la vie très dure au travail des gens. Au final, c'est un mauvais calcul budgétaire. C'est plus de boulot en mauvaise santé pour ceux qui ont un travail, ou alors vous êtes sans emploi ni retraite, ou alors vous avez une retraite plus faible.
Une vision très noire.
Perdant.
Donc, si on augmente l'âge de la retraite, vous dites c'est perdant.
C'est perdant budgétairement, c'est perdant pour la vie des gens.
Emmanuel Lechypre.
Non, je suis pas du tout d'accord. La réalité, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, alors effectivement, vous sortez d'un monde dans lequel pendant 20 ans, 30 ans, on a incité les entreprises massivement à se débarrasser à 50, 55 ans des seniors. C'était une espèce de pompe refoulante qu'il faut maintenant transformer en pompe aspirante. Mais qu'est-ce que vous voyez? C'est que dans tous les pays, et on le voit en France aussi, dans tous les pays où vous avez retardé l'âge légal de départ à la retraite, finalement, les entreprises s'adaptent. Et le taux d'activité des seniors, il augmente. Si vous prenez le taux d'emploi, c'est-à-dire les 55-64 ans qui ont un emploi aujourd'hui, ce taux, il a considérablement augmenté. On était à 37% en 2003, on est à plus de 49% aujourd'hui. Donc, ça marche.
Sauf qu'Emmanuel, les stats de l'OCDE que j'ai sous les yeux disent, vous avez raison, ça a augmenté, sauf que c'est le plus bas niveau de tous les pays de l'OCDE avec la Belgique, pratiquement.
C'est le plus bas niveau de tous les pays.
C'est le pays, la France, c'est le pays où on emploie le moins les seniors avec la Belgique.
Oui, mais ça.
Même si ça a augmenté, ça reste très faible.
Ça, Christian, on est sur un phénomène qui est un phénomène éminemment culturel. Je veux dire, le raisonnement des entreprises, il a été de se débarrasser des seniors pendant des années. Et là, pour moi, le vrai sujet d'ailleurs, au-delà de ces réformes, c'est un, effectivement, comment on permet aux gens de travailler davantage plus longtemps.
Et mais là, surtout, vous rejoignez Christian.
Non, mais surtout, dans quelles conditions? Et c'est là où on voit que les entreprises sont pas adaptées. Prenez par exemple une entreprise comme la SNCF. Quand vous discutez avec les conducteurs de train, ils vous disent, mais attendez, nous, on aimerait bien travailler après 55 ans, parce que on est quand même encore capable, mais pas de conduire, parce que c'est trop dur. Par contre, faites-nous faire de la formation, faites-nous faire de la supervision. Et il y a énormément d'entreprises dans lesquelles on n'est pas prêt à faire passer des gens qui travaillent à temps plein progressivement sur des temps de travail moins longs, sur des travails moins pénibles. Et ça, pour moi, c'est le défi majeur.
Voilà, Emmanuel a répondu. Structurellement, les employeurs français ne veulent pas embaucher les vieux. Et pourtant, si vous reculez l'âge de la retraite, si vous accroissez le problème structurel qu'Emmanuel vient bien expliquer de manière très pédagogique, on va avoir encore plus de personnes âgées qui vont avoir du mal à trouver du travail. Il va falloir attendre plus longtemps en invalidité, aux minima sociaux ou au chômage pour pouvoir avoir une vie à peu près décente. Attention, on a eu un sondage de l'OCDE cette semaine. 22 000 personnes dans 21 pays sur qu'est-ce que vous pensez de la qualité des services publics. Et il y avait une question, c'était s'il y a une intervention publique sur laquelle votre État doit vraiment faire quelque chose d'important pour améliorer la qualité.
Oui.
Leur inquiétude principale. Le niveau des retraites pour l'ensemble des pays de l'OCDE, 54%, ça arrive en tête. En France, ça arrive en tête avec 60%.
Non, c'est absurde.
Et que nous dit, c'est le premier centre.
Non, mais
à moyen long terme, je vous donne le résultat du sondage de l'OCDE.
Sûr.
Peut-être que l'OCDE est absurde, mais moi, bon, on peut toujours essayer de s'appuyer sur ce calcul. 60% des Français, la première chose qui est importante pour l'avenir, c'est la retraite. Et attention, nous dit l'étude spécifique pour la France, c'est un facteur clé de sécurité économique pour les Français. Si vous touchez à la retraite, vous touchez non seulement aux revenus des retraités, mais à la sécurité économique des autres Français.
Mais là,
vous allez plomber
cette perception, elle est aberrante.
On a un problème parce que non, mais les gens en France pensent que les jeunes pensent qu'ils n'auront pas de retraite.
Mais c'est
complètement faux.
Elle est totalement aberrante dans le pays qui a le système de retraite le plus luxueux du monde. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les Français, il faut qu'ils arrêtent de se plaindre.
C'est-à-dire. Alors non, mais est-ce qu'ils s'ennuient? Est-ce qu'ils s'angoissent?
Parce qu'il y a quand même un moment. Attendez, comment vous attendez? On distribue 13,5% de notre PIB en retraite. C'est 11 dans la zone euro. C'est 80 milliards de plus par an pour les retraités que dans la moyenne de la zone euro. Le taux de remplacement, c'est un des plus élevés. Le niveau de vie de nos retraités en France, c'est un des plus élevés de toute l'Europe. Et en plus, on est dans le pays dans lequel les gens touchent leur retraite le plus longtemps parce qu'on est dans le pays dans lequel on parle plus tôt à la retraite. Donc, quand vous prenez l'essentiel de la hausse des impôts dont tout le monde se plaint depuis 20 ans, par exemple, 100 milliards de hausse d'impôts, les trois quarts de ces 100 milliards de hausse d'impôts, ils sont passés dans les retraites. Donc, il y a un moment où
c'est complètement anormal. On a des retraités qui partent tôt et qui sont bien rémunérés.
C'est pas ça.
C'est que
Christian,
ce qui est anormal,
Emmanuel,
c'est d'avoir un système qui coûte aussi cher, qui paye aussi bien, même s'il y a d'énormes disparités entre les retraités.
Eh oui.
Bien évidemment. Et d'avoir cette perception-là, qui est une perception
sauf
de toute façon générale.
On a déjà fait la réforme des retraites qui fait que à l'horizon, le corps nous dit, à l'horizon 2040, le niveau de vie des retraités, ce sera 90%, entre 90-95% au niveau des actifs, et à l'horizon 2070, entre 75-90%. On a déjà fait les réformes des retraites, pas besoin d'en faire une de plus.
Je crois que le dossier n'est pas définitivement refermé entre vous, Christian Chavagneux.
Même la veille de notre départ à la retraite, on sera encore en train d'en débattre.
Dans un débat. Exactement. Christian Chavagneux, et vous ne partez pas tout de suite, hein, et Emmanuel Le Chypre, les débatteurs du samedi. À présent, je vous amène un peu au pas de course, ailleurs qu'en France, mais nous restons en Europe, hein, dans les pas du président chinois. Il est venu promouvoir son projet de nouvelle route de la soie. Avant Monaco, avant Paris, Xi Jinping est depuis hier en Italie et molto importante, comme on dit, sur la rail.
Per il regime cinese, la visita di Xi Jinping a Roma è molto importante. L'Italia è il primo paese del G7 che firma un accordo per realizzarlo. Roma è considerata la porta d'Europa.
Bonjour Olivier Tosseri.
Bonjour Alexandra.
Olivier, vous êtes correspondant de France Inter à Rome. Alors c'est aujourd'hui que l'Italie signe avec la Chine. Elle devient le premier pays du G7 qui s'inscrit dans ces nouvelles routes de la soie. Mais Olivier, dites-nous exactement, est-ce qu'on sait ce que contient cet accord ?
Eh bien, c'est un accord beaucoup moins ambitieux que ce qui était prévu à l'origine lorsque les négociations ont commencé en 2017. Ce qui sera signé, c'est, rappelons-le, un protocole d'accord, un cadre dans lequel développer les relations économiques entre les deux pays. Les enjeux demeurent importants. Les échanges sino-italiens s'élevaient l'an dernier à 44 milliards d'euros. Mais alors que la France exporte pour 20 milliards d'euros et l'Allemagne près de 65 milliards d'euros, les exportations made in Italy ne représentent que 13 milliards d'euros. Rome n'est que le 19e partenaire commercial de Pékin et veut donc rattraper son retard, saisir toutes les occasions pour sortir de la récession. À quel prix ? Celui de partenariats dans les secteurs bancaires, énergétiques, agroalimentaires, d'infrastructures, notamment pour moderniser les ports de Trieste et de Gênes, mais aussi et surtout les télécommunications avec la technologie 5G. C'est ce qui a fait peur aux Américains en conflit commercial ouvert avec les Chinois, mais également aux partenaires européens que l'Italie n'a même pas pris la peine de consulter. L'actuel gouvernement a montré son manque d'expérience, voire son complet amateurisme. Pour rassurer ses alliés, il a dû revoir ses ambitions à la baisse, notamment en restreignant les accords sur le fameux dossier sensible de télécommunications. Mais les Chinois savent que l'Italie, pays en crise, avec un gouvernement instable, est en quelque sorte le maillon faible des pays du G7, une porte d'entrée idéale pour étendre leur influence en Occident.
Et qu'est-ce qu'on en dit chez vous ? Est-ce qu'il y a débat sur cette signature, sur ce protocole d'accord, sur ces nouvelles routes de la soie ?
Oui, un débat très vif au sein même du gouvernement pour commencer, avec la Ligue qui promettait de dresser des barricades pour éviter que l'économie italienne ne soit colonisée, et puis le mouvement 5 étoiles qui veut utiliser cette nouvelle route de la soie pour exporter plus de produits made in Italy. Un accord gagnant-gagnant en quelque sorte, avec la possibilité d'attirer des investissements chinois qui sont déjà très nombreux en Italie, et en échange une plus grande ouverture vers les marchés asiatiques. Le rapport à la Chine est donc ambigu, il y a à la fois la crainte de vendre les derniers bijoux de famille de l'économie italienne et en même temps l'appât du gain d'investissement indispensable dans un pays en crise. Ils font moins peur que ceux des pétromonarchies du Moyen-Orient qui sont perçus ici simplement comme des prédateurs. Et puis vis-à-vis de Pékin, l'expression « route de la soie » réveille tout un imaginaire historique et culturel, celui des marchands vénitiens et du plus célèbre d'entre eux, Marco Polo, qui a vécu à la cour de l'empereur de Chine.
Olivier Tosseri avec nous depuis Rome. Mais est-ce que ces craintes européennes, cette Europe divisée, est-ce que ces craintes sont exagérées ? Que cherche vraiment Pékin ? Allez, maintenant je vous emmène en Chine pour constater que la stratégie chinoise ne se limite pas aux nouvelles routes de la soie. Bonjour Simon Leplâtre.
Bonjour Alexandra.
Simon, vous êtes le correspondant de France Inter à Shanghai. Alors les routes de la soie jusqu'en Italie, ça nous occupe beaucoup. Mais il y a un autre plan que poursuit la Chine et qui fait peur à l'Europe et plus encore aux États-Unis. Ça s'appelle Made in China 2025. Simon, on en parle moins mais on a tort parce que Made in China 2025, ça vise à remplacer les entreprises étrangères par des entreprises chinoises, et ça dans une dizaine de domaines ?
Pour que vous compreniez, ce matin je vous emmène à Shanghai, dans ces quartiers d'affaires avec des tours de verre, dont la deuxième plus haute du monde, la Shanghai Tower, qui mesure plus de 600 mètres, et ces avenues où roulent des voitures de luxe rutilantes. Bref, nous avons sous les yeux la vitrine de la réussite économique chinoise, les passants utilisent de plus en plus des smartphones chinois, ils utilisent aussi massivement les paiements mobiles, la ville a l'air ultra moderne. Oui, mais les voitures de luxe sont allemandes, et dans les smartphones, les puces électroniques, le cerveaux de tous nos objets connectés sont fabriqués aux États-Unis, en Corée du Sud ou à Taïwan. La Chine innove, la Chine s'impose comme une puissance économique, mais elle n'est pas encore une superpuissance technologique. Pour les technologies de pointe, elle importe des produits ou des composants fabriqués à l'étranger. Et c'est à cela que les autorités chinoises veulent remédier avec ce plan Made in China 2025. Il a été adopté en 2015 et à l'époque déjà, l'économie chinoise ralentit fortement et Pékin comprend que la donne change. Les années de croissance à deux chiffres appartiennent au passé, la population en âge de travailler commence à reculer, la Chine perd donc l'avantage compétitif d'une main d'œuvre abondante et bon marché. Certaines usines bas de gamme déménagent vers des pays moins développés et moins chers en Asie du Sud-Est ou en Afrique. Bref, la Chine doit changer de modèle pour continuer à se développer.
Simon, et concrètement, en quoi consiste le plan Made in China 2025 ?
Alors, 10 secteurs sont concernés, comme l'aéronautique, les technologies de l'information et de la communication, les voitures électriques, les trains, la robotique. Le but, c'est qu'à l'horizon 2025, sur le marché chinois, 70% des composants fondamentaux, ceux qui requièrent le plus de haute technologie, soient produits en Chine. Mais ce n'est qu'une étape, le plan voit très loin. Écoutez David Morisot, qui a co-signé un rapport sur le sujet pour la Chambre de commerce européenne.
Alors, c'est un plan classique, comme sait le faire l'appareil de planification chinoise. Il est divisé en 3 étapes. La première étape, 2025. D'ici 2025, il faut un rattrapage technologique sur les technologies qui sont engagées dans les 10 secteurs qu'on a mentionnés plus tôt. Le rattrapage technologique se fait sur 2 modalités, soit des transferts de technologies forcées, comme ça s'est toujours fait en Chine par le biais de joint venture, soit par des acquisitions de compagnies étrangères, de technologies étrangères. Ça, c'est la première étape d'ici 2025 pour rattraper le retard technologique. Seconde étape, 2035, à partir de ces technologies, on va monter dans la chaîne de valeur et on va construire des compagnies chinoises de premier rang. Pour construire ces compagnies chinoises de premier rang, on va avoir accès à toute la force de frappe de l'appareil étatique chinois, c'est-à-dire subventions, privilèges fiscaux, facilités de financement et surtout protectionnisme, c'est-à-dire qu'on va empêcher que les compagnies étrangères aient trop de parts de marché parce qu'on veut développer des compagnies chinoises prioritairement. Et troisième étape, on arrive à 2049. 2049 qui est une date qui n'est pas innocente parce que c'est le centenaire de la République populaire de Chine. Et d'ici 2049, on veut que ces compagnies chinoises deviennent des leaders mondiaux et que la Chine devienne un leader mondial sur ces secteurs-là. Et ce qui lui permettra de continuer à tirer sa croissance comme elle l'a fait durant les 40 dernières années.
Ce plan passe par des subventions, par l'intervention très importante de l'État sur l'économie. Est-ce qu'il y a un risque de créer de nouvelles surcapacités, comme ça a été le cas par le passé avec l'acier ou autre ?
C'est exactement ce que nous, business européens, mais on ne se limite pas, moi je parle en tant qu'Européen, mais c'est des critiques que font également d'autres nations. Les États-Unis, la Chambre américaine est aussi très critique à ce sujet-là, mais il faut savoir qu'on n'est pas tout seul, nous occidentaux, c'est des critiques que font aussi les Coréens, les Japonais. En effet, ces interventions de l'État sont très lourdes. Et quand en Chine, l'État a dit d'aller dans une direction, tout le monde y va. Le résultat logique, c'est un déséquilibre total de l'offre et la demande. On a une offre qui se développe de façon totalement anarchique. Tout le monde va dans cette direction-là. Et ce qui crée de surproduction. Et c'est déjà ce qu'on est en train de voir dans certains secteurs en réalité. Sur les véhicules à énergie nouvelle, par exemple, il y a énormément de compagnies chinoises qui se sont engouffrées dans la brèche, on va dire. Et on a un peu tout et n'importe quoi.
Oui, parce que la conséquence de ces surcapacités, c'est potentiellement ensuite une baisse des prix et un dumping que vont subir les entreprises étrangères.
Oui, bien sûr. Donc là, on est dans un monde qui est totalement ouvert et mondialisé. Et quand la Chine, ça c'est ce qui s'est passé sur le secteur du ciment, de l'acier, de l'aluminium, quand la Chine produit trop, ça a un impact sur le marché mondial et les prix s'effondrent parce qu'il faut que la demande rattrape l'offre. Et tant que c'est pas fait, les prix s'effondrent et déséquilibrent totalement l'offre mondiale en réalité et nos industriels en Europe.
Les chefs d'entreprise européens basés en Chine ont critiqué ce plan, mais Alexandra, ce sont surtout les Américains qui se sont fait entendre. L'administration Trump est montrée au créneau, le plan Made in China 2025 est une des raisons pour lesquelles Washington a déclaré une guerre économique à Pékin. Les Européens, comme les Américains, reprochent aux Chinois de privilégier les entreprises chinoises et donc de ne pas respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce.
Simon, j'imagine que chez vous, en Chine, on ne voit pas tout à fait les choses de la même manière.
Oui, il y a une autre analyse. Je vous emmène cette fois juste en face de la Shanghai Tower, dans le quartier d'affaires de Shanghai, Lu Jiazui, rencontrer Sean Rain. Il est économiste et auteur d'un livre sur l'innovation en Chine, The End of Copycat China, la fin de la Chine qui copie, l'émergence de la créativité, de l'innovation et de l'individualisme en Chine. Pour lui, les angoisses occidentales au sujet des ambitions économiques de la Chine sont exagérées.
On a critiqué le plan Made in China 2025 et les nouvelles routes de la soie. Pour moi, ces critiques, elles sont exagérées. On joue un peu sur le sensationnalisme. Ces plans, ils ressemblent au Made in America des États-Unis quand j'étais enfant, dans les années 80, ou au plan Marshall dans les années 50. La différence, c'est que la Chine est tellement grande, elle est en train de changer l'ordre mondial. Il y a 10 ans, la Chine était le principal partenaire commercial de 40-50 pays, les États-Unis, eux, de 140-150. Le curseur a bougé. Aujourd'hui, la Chine est le partenaire numéro un pour 140-150 pays. Donc l'Amérique perd de sa puissance. Elle s'inquiète, elle se déchaîne, elle essaye de convaincre le reste du monde qu'il y a une menace chinoise militaire, politique et technologique. Je pense que ces peurs sont exagérées. Encore une fois, il s'agit de pouvoir, mais aussi, selon moi, de racisme. Oui, pendant plus d'un siècle, il y a eu aux États-Unis un sentiment anti-chinois, anti-péril jaune. Par exemple, on a vu les Américains restreindre l'immigration des Chinois avec une loi d'exclusion en 1882. La société américaine est bien plus raciste qu'on ne le pense.
Mais si on parle plus précisément d'économie, ce genre de plan comme Made in China 2025, dans le passé, ça a entraîné des surproductions de produits chinois. Est-ce que cette fois, le plan est mieux calibré ou bien doit-on s'attendre à voir émerger de nouvelles surcapacités à l'avenir ?
Mon avis, c'est que ce genre d'initiative planifiée par le gouvernement, c'est fait pour donner un élan, pour entraîner les gens vers un objectif. Mais le problème, c'est que souvent, ce que veulent les marchés, ce n'est pas exactement ce que souhaite le gouvernement. Et donc, oui, ça crée des surproductions. Par exemple, le gouvernement voulait encourager le développement économique de la province du Guizhou, qui était l'une des plus pauvres du pays. J'y suis allé en 1998. Elle était encore moins visitée par les touristes étrangers que le Tibet ou le Xinjiang. Donc ils ont essayé de faire du Guizhou la capitale du Big Data. C'est absurde. Les cerveaux ne sont pas là, les entreprises non plus. Donc mon sentiment, c'est que planifier l'économie a ses limites.
Donc un plan pas si original finalement. D'autres l'ont fait avant la Chine, mais il y a deux inquiétudes. D'abord, l'État parti intervient beaucoup plus dans l'économie chinoise qu'ailleurs et ça crée des déséquilibres. Ensuite, il y a une question d'échelle. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. Donc, même si le pays est toujours en développement, c'est déjà la deuxième puissance économique mondiale et donc l'impact des mesures prises par la Chine est énorme.
Le dossier signé Simon Leplâtre, notre correspondant à Shanghai.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Pour continuer la réflexion, le coprésident du comité France-Chine est notre invité. Bonjour Jean-Louis Chaussade.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Suez, vous serez bientôt son président. Suez, c'est le numéro 2 mondial de la gestion de l'eau et des déchets. Jean-Louis Chaussade, combien d'usines en Chine pour vous ?
Alors des usines que nous avons construites énormément, on doit être pas loin maintenant de 300 usines. Des joint ventures, nous en avons 70. Et pour vous donner un dernier chiffre, il y a plus de 20 millions de Chinois qui boivent de l'eau gérée par Suez.
Donc un marché important pour vous. Quand vous dites joint venture, ça veut dire une co-entreprise. C'est obligatoire avec une entreprise chinoise ? Est-ce que les transferts de technologie aussi sont obligatoires ?
Ce sont des co-entreprises, généralement dans le domaine de l'eau, avec les villes d'ailleurs, ce qui est une forme de coopération que l'on retrouve d'une manière ou d'une autre dans à peu près tous les pays. Évidemment, il y a du transfert de technologie et de savoir-faire. Nous l'assumons dans le cas particulier complètement.
Jean-Louis Chaussade, si on regarde l'Europe, la Chine aujourd'hui, elle investit dans les réseaux, les infrastructures, hein, on l'a vu avec les routes de la soie. Est-ce que, à votre connaissance, elle s'intéresse aussi aux réseaux d'eau, aux réseaux d'assainissement en Europe ?
Alors, il y a un certain nombre d'entreprises chinoises qui ont investi en Europe dans nos métiers. Alors, par exemple, au Portugal, où ils ont acheté l'eau et d'ailleurs l'électricité du Portugal. Dans le nord de l'Europe, en Allemagne, en Hollande, où ils ont acheté cette fois-ci plutôt des entreprises qui faisaient de l'incinération. Donc oui, ils se sont intéressés à nos métiers. Et avec une idée très claire à chaque fois, c'est que ils étaient capables, grâce à ces acquisitions, d'acquérir un savoir-faire qu'ils n'avaient pas forcément en Chine.
C'est en effet toute leur logique. Donc aujourd'hui, vous voyez en Europe le ton qui change, le regard sur la Chine qui change. Vous, chef d'entreprise, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que, comme l'expert qu'on a entendu dans le reportage, vous pensez que ces craintes sur la Chine en Europe aujourd'hui, elles sont exagérées ?
Ben, si vous voulez, je pense que, j'allais dire, le verre peut être à moitié vide ou à moitié plein. D'abord, quand on regarde les investissements chinois en France, ils sont très faibles. Je crois qu'il y a à peu près 45 000 emplois, par exemple, qui sont tenus à travers des entreprises filiales d'entreprises chinoises. Je pense que la Chine a dû investir en France à date à peu près 5 milliards d'euros. Quand vous voyez ce que les Américains ont investi en France, c'est de l'ordre de 80 milliards d'euros. Ça n'a rien à voir. Et le nombre d'emplois créés par les Américains à travers des entreprises qui fonctionnent en France n'a rien à voir. Donc, il faut, premier point, il faut aussi relativiser le poids de la Chine. Là où, par contre, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention, c'est dans deux domaines. La Chine, comme les États-Unis, ont une vision très claire qu'ils veulent avoir des grandes entreprises qui leur permettent, quelque part, une expansion mondiale. Regardons les GAFA, qui sont américains, ils ont une expansion mondiale. Est-ce que c'est bon pour l'Europe ? Ben moi, je pense qu'à un certain point, ça l'est pas. Et d'ailleurs, j'entends la Commission européenne, j'entends les Français maintenant dire « bah oui, il faudrait déjà qu'ils payent des impôts comme tout le monde en Europe ». Les Chinois sont sur une trajectoire légèrement différente, mais eux, ils veulent construire d'énormes sociétés aussi, de manière à pouvoir exporter leur savoir-faire à l'international. La vraie question, pour moi, elle est européenne. Qu'est-ce que les Européens veulent faire ? Et j'avoue que c'est avec grande tristesse que j'ai vu, par exemple, que la fusion entre Alstom et Siemens sur les trains avait été interdite par la Commission européenne.
Pourquoi ? Parce que vous pensez qu'on permet pas aux géants européens de se construire ? Vous pensez que c'est une mauvaise politique et qu'il faut en changer ?
Je pense que la politique de la concurrence de la Commission européenne, qui a été créée il y a à peu près 50 ans, à un moment où on voulait créer l'Europe, avait du sens, parce que sinon, les barrières, elles étaient même au niveau des pays. Donc ça avait du sens, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument réviser ces politiques, car je pense que nous avons besoin, nous aussi, de grands champions, et ni la France, ni l'Allemagne, ni aucun pays européen individuel n'a la capacité de créer des grands champions.
Quitte à ce que ce soit, et c'était le problème dans la fusion Alstom-Siemens, quitte à ce que ce soit, finalement, le consommateur européen qui paie en bout de chaîne pour la constitution de ces grands champions.
Oui, mais si à la fin du fin, le consommateur européen est un chômeur, il consommera pas grand-chose. Et donc il faut qu'on sache aussi choisir entre l'emploi industriel auquel moi j'aspire en Europe grâce à des grands groupes et la consommation, et il faut trouver un équilibre.
Alors justement, on est en train de s'interroger sur comment l'Europe, quelle doit être sa stratégie face à la Chine. Vous dites il faut construire des grands champions européens.
Oui.
Maintenant Bruxelles dit aussi on veut plus de réciprocité avec la Chine, on veut qu'ils nous ouvrent leur marché public, on veut qu'ils arrêtent de nous forcer à faire des transferts de technologies. Est-ce que c'est réaliste ça ? Est-ce qu'on a les moyens d'imposer ça à Pékin aujourd'hui ?
Alors, je pense que là aussi, il faut trouver un équilibre. Mais il y a un vrai sujet qui est d'ailleurs évoqué dans le reportage que nous avons entendu, à savoir que on ne peut pas être dans une situation où toutes les technologies européennes seraient, ce qui n'est pas le cas, mais seraient, j'allais dire, pillées par la Chine, et où ensuite le marché chinois, lui, serait quasiment fermé.
Oui, mais ça fait combien ? 10 ans qu'on le dit.
Oui, mais si c'est plus possible. C'était possible pour une Chine qui avait besoin de se développer en interne, ce n'est pas possible avec une Chine qui a décidé, comme ça a été indiqué tout à l'heure, de développer les routes de la soie, de faire 2025, parce que à ce moment-là, il y a un vrai équilibre à trouver entre je dirais, les entreprises européennes, les entreprises américaines, les entreprises chinoises dans le monde entier. Et là, l'équilibre n'est pas encore trouvé, loin de là.
Mais la question, c'est est-ce qu'on a les moyens d'imposer cela? Trump crée une guerre commerciale. L'Europe, elle dit, moi, j'aimerais changer les règles. Mais finalement, où est notre levier dans ce rapport de force?
Nous avons un levier. Nous sommes un marché européen. C'est un marché de 450 à 500 millions de consommateurs qui consomment à des niveaux très supérieurs à tout ce qui reste en dehors des États-Unis, dans le reste du monde. C'est ça, notre point fort.
Il est encore temps d'agir?
Faut agir vite.
Jean-Louis Chaussade, hier, le 22 mars, c'était la journée mondiale de l'eau. Encore 2 milliards d'êtres humains privés d'eau potable et pourtant l'ONU nous dit que ça devrait être un droit fondamental. L'ONU nous dit aussi qu'il faudrait investir 3 fois plus pour résoudre ce problème, 3 fois plus qu'aujourd'hui. Il y a les États, mais il y a aussi la responsabilité des entreprises ou le rôle des entreprises. Quel peut être le rôle d'une entreprise comme Suez pour faire de ce droit enfin un droit universel?
Alors d'abord, il faut dire que beaucoup de choses dans le domaine de l'eau ont été faites et l'amélioration de la distribution d'eau globalement sur la planète est considérable. Le chiffre que vous indiquez de 2 milliards, c'est 2 milliards d'individus qui sont privés principalement d'assainissement. Sur la distribution d'eau potable, on dit qu'il y a à peu près 800-900 millions, ça, les chiffres sont variables, ceux de gens qui ont n'ont pas accès à une eau potable, on va dire, de qualité raisonnable, avec toute une série d'inflexions sur lesquelles je ne veux pas revenir.
On a progressé, mais quand même, le manque d'assainissement, d'accès à l'eau potable, ça tue plus que les conflits, les épidémies, les séismes.
Mais nous étions 2 milliards, moins de 2 milliards en 1900, nous sommes 7 milliards et demi aujourd'hui, les investissements sont évidemment considérables, ça n'enlève pas le fait que oui, il faut investir plus. Et pour répondre à votre question, le sujet majeur de l'investissement, c'est la gouvernance. De l'argent, il y en a. Mais il faut mettre en place des gouvernances. La gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la transparence. Qui investit? Dans quoi on investit? Comment je suis sûr que l'argent que j'ai donné est bien investi? Comment je suis certain qu'avec l'argent que l'ensemble de la communauté internationale peut donner, comment est-ce que je suis sûr que cet argent est correctement géré?
Alors vous me dites l'argent, il est où? L'argent, il y en a, mais l'argent, il est où? Il vient d'où? Il y a des États impécunieux.
Non, mais on peut trouver, aujourd'hui, on peut trouver de l'argent pour tous les projets. La question, elle n'est pas là. La question est de savoir, quand on investit, quel est le retour sur investissement qu'on attend. Et ensuite, si on fait des dons, ce qui peut être possible, pour un certain nombre de pays très pauvres, on veut être certain que l'argent est bien utilisé et qu'ensuite, ceux à qui il est destiné, c'est-à-dire les plus pauvres, ont droit, grâce à ça, à un accès facile, en tous les cas, bon, à l'eau. Vous savez, moi, j'étais à Buenos Aires. C'est un de mes meilleurs souvenirs professionnels. C'est quand on amenait les fontaines à eau dans les quartiers pauvres, les gens faisaient la fête. C'était extraordinaire. L'eau, c'est toujours une fête à condition qu'on sache l'amener.
Allez, je vous ramène en France. Est-ce que vous constatez que les Français, on est en plein grand débat national, cohésion du pays, est-ce que les Français ont de plus en plus de mal à payer leur facture d'eau?
Alors, je crois pas que la facture d'eau soit un problème. D'abord, l'eau est certainement un des services publics les moins chers. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir de difficultés à payer l'eau. Et en ce qui concerne les gens les plus pauvres, en tous les cas les plus fragiles, vous avez toute une série de mécanismes qui ont été mis en place qui font qu'il y a des chèques, il y a toute une série de subventions possibles. Je ne dirais pas que l'eau est un problème aujourd'hui pour les Français, même s'il faut être attention. Et d'ailleurs, nous faisons chez Suez extrêmement attention à faire des tarifs qui sont progressifs. On ne paie pas beaucoup au début. Quand on consomme les premiers mètres cubes, on paie beaucoup plus quand on dépense plus d'eau. Ça, plus l'ensemble des systèmes de protection que j'ai décrits, devrait permettre à l'ensemble de la population française d'avoir accès à l'eau. C'est d'ailleurs le cas.
Une question d'actualité pour un grand patron, le président de Technip, qui doit partir là avec 14 millions d'euros. Comme vous le savez, son entreprise, elle a perdu 1,7 milliard l'an dernier. Est-ce que ça vous choque, vous, Jean-Louis Chaussade?
Bah écoutez, je connais pas du tout ce dossier, mais qu'on parte avec des sommes pareilles, oui, ça me paraît beaucoup.
Vous ne partirez pas avec une somme pareille?
Non.
Alors, toute dernière question, parce que c'est ressorti dans les cahiers de doléances, il y a eu ce sujet sur les rémunérations des grands patrons qui progressent plus vite que celles de leurs salariés. Quel est votre regard là-dessus?
Écoutez, moi, mon salaire fixe, il est le même depuis 10 ans, donc je suis extrêmement cool avec ça. On parle beaucoup du salaire des grands patrons. Je pense qu'on devrait aussi mesurer l'immensité de la tâche qu'ils ont à faire, et il faut trouver un bon équilibre entre, je dirais, le métier qu'ils font, qui est un métier très difficile dans un environnement souvent très compliqué, et les rémunérations qu'ils ont. Et moi, je suis très très favorable à des rémunérations rémunérations variables importantes liées à des objectifs très précis, ceux qui sont fixés par le conseil d'administration.
Mais vous ne me dites rien sur l'écart avec le reste des salariés.
Je vous ai répondu.
Jean-Louis Chaussade, le patron de Suez, bientôt président de Suez, merci d'avoir été sur France Inter.
Je vous en prie, merci.
Sandrine Foulon, je l'avais ratée celle-là, le 21 mars, c'était la journée mondiale du rangement de bureau. Ça peut paraître accessoire.
Ah oui, vous savez Alexandra, même ma vie au boulot à sa journée mondiale, c'est le 28 avril et c'est sur la santé et la sécurité au travail. Et puis il y a les plus surprenantes, ne la remettez surtout pas à mardi, ce lundi c'est la journée de la procrastination. Il y aura la journée sans pantalon en janvier, ce qui est moins malin. Je me suis renseignée, à part les grandes journées lancées par les Nations Unies, il n'y a aucune autorité qui délivre un label officiel, n'importe qui peut se lancer sur Internet.
Et donc ce sujet de rangement de bureau, est-ce qu'il mérite vraiment sérieusement qu'on s'y attarde?
Alors c'est étonnant de voir à quel point les chercheurs étudient nos espaces de travail. La science a toujours un gros faible pour les désordonnés. Ce seraient les plus créatifs et les plus efficaces. C'est ce qu'a encore confirmé une chercheuse de l'université du Minnesota. C'est comme à la maison, quand vous posez vos vêtements par terre, les papiers partout, ça voudrait dire que vous pensez hors du cadre, que vous n'êtes pas conventionnel. Le désordre oblige à se concentrer sur les tâches essentielles. Et puis, comme vous ne perdez pas de temps à ranger, vous êtes plus productif. Ils font donc cultiver le wabi-sabi, l'art du petit bordel en japonais. L'idée est d'être spontané, moins géométrique pour donner libre cours à sa créativité. Mais voilà, tout le monde ne comprend pas forcément le génie qui est en vous. Une autre étude de l'université du Michigan a montré qu'un bureau avec des objets partout, des traces de ronds de café sur la table, donnait une mauvaise impression de son propriétaire qui est perçu comme névrotique, négligent, désagréable. Si en plus du chaos, le collègue laisse traîner sa lunchbox de choux de Bruxelles, le risque est de perdre en capacité à travailler ensemble ce qu'il a gagné en efficacité. Entre se faire des amis ou brider un poil sa créativité, il faut savoir choisir.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot, le Magéco baisse le rideau. Toute l'équipe vous souhaite un excellent week-end. Et quant à moi, j'ai bien compris, je vais ranger mon bureau. À partir de la semaine prochaine, c'est l'excellent Fabien Cazot qui sera aux commandes du Magéco. Moi, je vous retrouve dès lundi dans le 7-9 aux côtés du cher Nicolas Demorand pour une parenthèse européenne.